Il y a une lettre d'opinion qui a été publiée dans les pages du Soleil au cours des derniers jours qui a retenu mon attention. C'est la post-COVID, donc on pense à ce qui va se passer au niveau des politiques publiques au lendemain de la pandémie. Et le titre, c'est « Klondike de politique progressiste », donc beaucoup de politique de gauche. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est un étudiant en sciences politiques, mais qui est aussi co-porte-parole de Québec solidaire pour la région de la capitale nationale. Il est au bout du fil. Cédric Véraud, bonjour!
Salut Eric, merci de l'invitation.
Bon, d'abord, je veux essayer de comprendre là, en quoi la COVID va favoriser des politiques plus à gauche. Parce que si j'ai bien compris, là, toi, tu penses que c'est une occasion pour repartir un modèle de société beaucoup plus à gauche au lendemain de la COVID. Là.
Ben écoute, le texte que j'ai écrit dans le Soleil parle de deux choses. Tu me le permets, c'est un constat et une question. Le constat, ben c'est pas compliqué, c'est le retour d'une conscience partagée de la centralité de l'État, si je peux dire, dans la vie collective. On sait là, depuis les années 80, des changements apportés à l'administration publique, à l'économie, on appelle ça là, le néolibéralisme à sens large, mais on fait que les responsabilités centrales de l'État sont éparpillées.
Je pense que depuis les 40 ans au Québec, on assiste à un néolibéralisme alors que la taille de l'État arrête pas de monter.
C'est pas une question de taille, Eric, c'est plus une question de priorité. Les corollaires de ce que je disais juste avant, c'est que l'État a une perte en possibilité d'action, mais en fait, surtout, une confusion quant à la reddition de comptes dans la population. Tu sais, le cynisme politique, Eric, là, mais il y a ses raisons. Puis une grande partie de ça est explicable du fait que on veut que notre gouvernement et nos services publics se dépassent, mais pendant ce temps-là, on leur lie les mains et les jambes.
OK. Puis là, à quoi ça ressemblerait une société nouvelle au lendemain de la COVID pour un QS, là?
Ben, en fait, la question, donc j'avais un constat et une question. La question dans le texte, je l'adresse là, à la classe politique fédérale parce que c'est ce palier-là qui a mobilisé plus de programmes, qui a engendré plus de dépenses. Mais c'est comment est-ce qu'on peut justifier, en temps de crise, la reconnaissance de situations de précarité puis de mailles dans le filet social, puis penser s'en désengager le lendemain de la crise? Fait que pour un progressiste, mais qui s'intéresse d'abord à la justice sociale, à l'égalité effective des chances, ben la post-COVID, ça représente une opportunité, mais de lutte sociale, de lutte politique, pour faire avancer des choses plus rapidement qu'en temps normal.
Fait qu'autrement dit, toi, tu proposes une espèce de révolution pour que les programmes comme la PCU, mettons, là, soient permanentes et non pas un programme en période de crise.
Écoute, Éric, là, on s'entend. Si tu as lu la lettre, tu sais que j'ai pas publié un manifeste. J'ai donné des exemples sommaires, que ce soit du municipal, du provincial ou du fédéral, de choses qui pourraient changer. Là-dedans, puis en fait, tu parles avec le ministre Duclos régulièrement, là-dedans, il y a une potentielle transformation d'un programme tel la PCU en une espèce de revenu minimum garanti. C'est une possibilité, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, puis autant que je parlais d'idées de grandeur, comme je l'ai dit dans le texte, autant que des choses comme la piétonnisation qui pourraient s'accélérer en raison de la crise.
Donc, des mesures d'urgence, des mesures de crise qui pourraient devenir permanentes, parce que c'est le programme de Québec solidaire depuis des années. Là, vous autres, là, la PCU, là, vous proposez ça pas pour une pandémie, mais pour en permanence. Là. C'est un peu ça. Là. Vous pensez qu'étant donné qu'on le fait pour la crise, la même chose pour les rues piétonnes, parce qu'on veut donner un break aux restaurateurs, puis on veut que les commerces reprennent vie, bien, vous autres, vous voudriez que ces mesures-là ne soient pas temporaires, mais qu'elles deviennent permanentes. Profitez de la crise pour implanter ça de façon permanente.
Ben, il y a une nuance à faire. Déjà là, la PCU est donnée à toute personne, bon, qui gagne moins de 1000 $ par année en raison d'une perte d'emploi directement liée à la crise. Puis c'est pas un programme qui va aller à jamais. La proposition de Québec solidaire dans le programme, c'est un revenu minimum garanti, donc qui garantit un plancher de revenus, donc qui serait seulement donné à ces personnes qui sont en bas de ce plancher-là, qui, normalement, là, correspond pas mal au seuil de pauvreté selon le panier de la consommation. Donc, on parle pas de programme universel. Je suis pas tenant d'un revenu universel donné à tout le monde, donc une PCU à tout le monde sans limite. Mais il y a des choses qu'on peut considérer. Puis là-dedans, oui, il y a des choses comme la piétonnisation qui se fait à plein d'endroits dans le monde, puis des transformations de programme, là. Simplement parce que pourquoi est-ce qu'en temps de crise, on adresse des problèmes qui, en temps normal, ne sont pas sur le radar de nos gouvernements?
Ben parce que normalement les restaurants sont ouverts puis ils ont pas de la misère à gagner leur vie là, c'est parce qu'on veut les aider parce qu'il y a un.
Mais là, Éric, t'es en train de me dire que c'est parce que les gens peuvent pas manger au restaurant qu'ils vivent dans la misère.
Ben non, mais c'est parce qu'à cause de la crise, on peut pas manger en dedans, on est obligé de les mettre dehors. Si les restaurateurs ils ont juste la rue où tu veux qu'ils mettent leur table, peuvent pas se les mettre dans la tête. Il faut que on prenne une situation exceptionnelle. parce que la raison pour qu'on ferme les rues, c'est pas pour des gaietés de cœur, c'est pas pour écœurer les automobilistes. Là, présentement, on fait ça parce qu'ils peuvent pas aller en dedans, puis que c'est la seule façon pour les restaurateurs de continuer à entretenir leur business puis à gagner leur vie.
Non, et puis non, je comprends ça. Puis tu sais, Eric, je travaille en hôtellerie. Je suis le premier qui a hâte de faire une réservation dans un restaurant à Québec, encourager le commerce local. Mais la piétonnisation, c'était qu'un exemple. Les grandes mesures, c'est des mesures sociales. On parle surtout en termes d'inégalité de revenus puis de droits économiques, de droits de travail.
T'appelles Québec la cité des radios privées?
Oui.
Pourquoi t'appelles? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, d'abord, je note une évolution par rapport à Catherine Dorion qui nous appelle encore les radios poubelles. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand t'écris ça?
Ben écoute, Eric, Québec, c'est une plaque tournante de la radio. C'est dans la file de la culture populaire de la ville. Là. C'est pas une reproche que je fais. Mais comme la conversation qu'on vient d'avoir le démontre un peu, une station de radio, ça reste à la fin une compagnie privée. Puis pour des raisons de revenus publicitaires, entre autres, mais ils ont intérêt à ce qu'au Québec, on continue de se promener en auto-solo. Donc la piétonnisation est un bon exemple. Je comprends que tu préférais que les gens soient dans leur voiture sur Saint-Joseph et non assis à une table en train de manger. Mais ça reste que c'est ça.
À ce moment-là, on pourrait dire que les gens qui sont à Radio-Canada, ben c'est parce qu'eux, à Radio-Canada, ils font la promotion du gouvernement, puis des libéraux, puis de l'État, parce qu'ils reçoivent. Plus le gouvernement est interventionniste, plus ils reçoivent des grosses subventions. Si on suit ta logique, ça voudrait dire que Radio-Canada est aussi biaisé, mais de l'autre bord.
Ah, mais je me suis pas prononcé sur Radio-Canada. Non, écoute, je suis pas invité par Radio-Canada non plus. Hein?
Non, ils t'invitent pas, c'est bizarre. D'habitude, il y a beaucoup de gens QS qui sont invités à Radio-Canada. Je veux que tu me parles, parce que récemment, on s'est un peu foutu de la gueule des gens de Québec solidaire parce que le parti a proposé de rembourser le Viagra aux patients qui souffrent de dysfonction érectile. C'est là où souvent QS, ça devient un peu loufoque parce qu'on a l'impression que l'argent pousse dans les arbres puis vous voudriez acheter tout à tout le monde comme si le Viagra, c'était un service essentiel d'une société. Comment tu justifies de prendre l'argent des travailleurs qui nous écoutent, les taxer pour payer le Viagra du voisin?
Ben écoute, j'ai pas mon dit que je me prononce pas sur un sujet sur lequel je suis pas vraiment informé. Donc, c'est certain que je peux te dire que je suis en valeur d'une
assurance. Comment ça, tu connais pas ça, Viagra?
Mais pour la question...
T'es trop jeune,
j'ai 20
attends un peu.
Ans, ça fait, c'est ça. Mais donc, je suis pour l'assurance médicaments. Pour la question précise du Viagra, par contre, je ne vais pas me prononcer parce que je ne connais pas les détails.
Qu'est-ce que tu dis aussi à ceux qui se disent, là, regarde, présentement, il y a des files d'attente partout. Il y a des pénuries. Il y a des décideurs qui ne sont pas élus, qui sont des fonctionnaires de haut niveau. Un paquet de droits individuels qui sont suspendus. Des chèques du gouvernement qui rentrent partout. L'État qui est devenu le plus gros employeur. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça ressemble au modèle de Québec solidaire. Tu réponds quoi à ça?
Ben, je réponds que non, parce que en ce moment, on est dans cette situation-là où que les gens sentent une crise de légitimité parce que justement nos institutions ne sont pas faites, ne sont pas préparées pour réagir souplement dans des situations de crise. Si on avait déjà des programmes de soutien de revenus plus, progressifs, là, ajustés selon la réalité de la société, ben, on serait pas dans la situation dans laquelle on serait aujourd'hui où qu'on a des files d'attente, où qu'on a des pénuries, où qu'on a un secteur communautaire qui en arrache parce que, au service d'entraide de la Basse-Ville, par exemple, on sert 250 repas par jour qui n'étaient pas considérés services essentiels, puis que il y a du monde dans le réseau de la santé, dans le réseau de l'éducation qui travaille comme des fous, mais qui, encore une fois, en temps normal, ne sont pas considérés. Il y a plusieurs personnes, puis je le dis dans le texte, qui s'intéresse pas à la politique en raison de sa gestion à la semaine. C'est pas parce qu'ils sont ignorants, c'est parce qu'ils sont ignorés du politique en temps normal. Donc, le modèle de Québec solidaire, c'est tout le contraire. C'est justement de donner de la considération à ces gens-là pour qu'à la prochaine crise, s'il y en a une, puis il devrait en avoir une, si on est réaliste, ben, on va être prêt, notre société va être plus juste.
Je veux comprendre aussi d'où l'argent va venir. Parce que c'est bien beau, Québec solidaire, ils ont toujours le cœur à bonne place, ils sont toujours prêts à faire un chèque à tout le monde qui broille. Mais en même temps, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye en quelque part, qui puis combien?
Ben écoute, si je peux prendre un exemple, là, juste pour imaginer ça, l'exemple des CHSLD, si je réussis à bien le dire. Les CHSLD sont les cas de gestion indigne, presque inhumains, qui ont fait la fraise dans les médias, ben sont en majorité dans des établissements privés. Puis là, où je veux en venir, c'est pas juste de dire on les nationalise, c'est même pas juste ça. C'est que la réaction, lorsque ça arrive, c'est on dit que c'est inacceptable, puis on se tourne vers l'État. Pourquoi ne pas intervenir? Pourquoi pas la tutelle? Pourquoi est-ce que tu as vraiment fait tes inspections? C'est un réflexe qui démontre qu'on s'attend à ce qu'à la fin, là, le gouvernement recolle tous les pots cassés du privé, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, name it, sans qu'on leur accorde la responsabilité.
Attends une minute, là. On le voit, là, qu'est-ce que ça coûte, là, présentement. On voit Justin Trudeau qui est en train de creuser un déficit cette année de 250 milliards de dollars parce que, justement, il envoie des chèques à tout le monde. Puis, il a instauré d'une certaine façon une espèce de revenu minimum garanti. Vous allez prendre l'argent où, si vous voulez que la PCU devienne permanente? Où allez-vous prendre l'argent? Qui allez-vous taxer? De combien?
Ben, à moins que je me trompe, Éric, les fonds en ce moment qui sont utilisés et les déficits qui se creusent, parce que oui, ils se creusent, ils sont utilisés, mais pourquoi? Pour venir en aide à un secteur privé qui bat de l'aile. Parce qu'on voit que, puis j'allais le dire, là, la situation économique en ce moment, c'est une crise, mais qui ne se vit pas juste dans les chiffres, c'est une crise qui ébranle littéralement les secteurs clés de notre économie. Ça va mener à une redéfinition de ces secteurs-là. C'est le modèle de production industrielle
C'est pas le modèle privé qui est le problème, c'est le gouvernement qui les empêche de travailler. C'est pas, ces entreprises-là sont pas en train de s'effondrer puis de faire faillite pour le plaisir. Ils font faillite parce que le gouvernement leur empêche d'ouvrir leurs portes. C'est pas, c'est l'État qui est responsable d'une fausse crise actuelle, là.
Est-ce normal, Éric, que des dirigeants de grandes entreprises se payent en temps normal, encore une fois, des bonus indécents alors qu'en temps de crise, après seulement un mois, ils sont insolvables? Est-ce que c'est normal?
Bien, c'est parce que là, c'est une roue qui tourne, puis ça va vite, et c'est pas tout le monde qui a beaucoup d'argent de côté. Il y a bien des travailleurs aussi qui, après une paye, il n'y avait plus une scène, puis qui criaient famine, puis c'est pour ça qu'on aurait envoyé des chèques. Parce que
si on compare la situation d'un travailleur dans la moyenne, puis un dirigeant d'entreprise privée, là, on est ailleurs. Mais par exemple, Québec solidaire n'est pas contre contribuable. Si on prend l'exemple des compagnies d'aviation, Éric, qui ne remboursent pas les billets parce que, supposément, ils n'ont pas l'argent, c'est une histoire là, qui démontre encore une fois que le modèle doit être corrigé.
Cédric Verreau, co-porte-parole de Québec solidaire, la capitale nationale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça termine notre émission. Merci tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain, 11h. Bye.